Bien, donc, je vous remercie d'être là. Je vais donc continuer, compléter certains points vus la dernière fois avant d'essayer de les mettre davantage en application autour d'un certain nombre d'œuvres. Je suis parti de cette notion empruntée à Marcel Duchamp du titre comme couleur invisible ajoutée au tableau, qui finalement vient le restructurer, qui conduit à le penser différemment. Alors j'avais essayé de distinguer les titres de type explicatif de titres qui touchaient davantage à la question de désignation et en reprenant à la logique de Port-Royal la distinction entre définition qui donne un titre, disons si on l'applique au titre, qui essaye de rendre compte d'une œuvre par son genre et sa différence, et la description qui essayait d'en rendre compte surtout par les accidents. Je parlerai aujourd'hui beaucoup plus de titres de type descriptif que de titres de type définition. J'avais aussi évoqué le fait que le titre tel que nous le concevons devait être concis comme une inscription. Alors, je voudrais peut-être reprendre un ou deux points ou nuancer un ou deux points que j'avais présentés la semaine dernière en parlant de la naissance du titre à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le moment où le titre vient s'appliquer dans le contexte du tableau sous la forme, justement, du cartel. Marie-Catherine Sahut m'avait fait remarquer que il semblait que sur les cartels des tableaux de la fin du XVIIIe siècle apparaissait plus le nom de l'artiste que réellement une inscription. Et j'en ai trouvé confirmation en voyant que David demandait de récupérer non seulement son tableau, le tableau qu'il avait peint pour l'Académie de peinture et sculpture, mais qu'il demandait aussi qu'on lui restitue la bordure qui portait juste son nom et non pas le sujet du tableau. Il y a un autre point que j'avais oublié de mentionner, que vous avez probablement pu voir à travers mes images, c'est que pour aujourd'hui, nous avons l'habitude, les professeurs l'exigent de leurs étudiants, de mettre le titre en italique ou souligné, et non pas entre guillemets, c'est-à-dire que c'est devenu une convention qui est général. C'est pour ça que dans les légendes de mes images, je distinguais ce qui me paraissait un vrai titre que je mettais en italique par rapport à ce qui me paraissait une description, une définition que l'on mettait entre guillemets. Ce passage à l'italique, en fait, est assez tardif. Dans le cadre français, cela m'a frappé de voir que c'est seulement en 1878 pour que le livret de salon qu'il va y avoir ce basculement dans les livrets des salons et que les titres vont désormais être inscrits en italique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont beaucoup de titres avant les titres, à proprement parler. Donc vous aurez plus de guillemets que d'italique. Et je vous avais présenté la semaine dernière, je vous ai indiqué, tous les textes que j'ai présentés la semaine dernière sont disponibles sur la page web dont je vous ai donné ici l'adresse. Le mot titre apparaissait, pour parler plus de la légende de la gravure que du tableau, dans l'encyclopédie méthodique. Le basculement, je voudrais le voir, alors, sans être sûr totalement de sa... je ne risquerai pas à dire qu'à tel jour le mot titre a été inventé ou dans tel livre le mot a été inventé, en vous présentant trois catalogues de musées, pour autant si l'on peut dire, le catalogue des tableaux de la galerie électorale de Dresde à propos d'un tableau dont je vous avais parlé la dernière fois, le tableau de Rubens, qui nous est présenté ainsi dans le catalogue, tableau appelé communément le Quo Sego ou Neptune apaisant la tempête, lorsque le cardinal Ferdinand d'Autriche fit le trajet d'Espagne en Italie. On n'est pas encore dans le mot titre ne s'emploie pas, c'est le mot encore appelé communément, que l'on retrouve aussi dans le catalogue de la galerie électorale de Düsseldorf à propos du jugement dernier de Rubens. Le jugement dernier, appelé communément le grand jugement de Rubens. Le appelé communément renvoie d'ailleurs aux descriptions que Roger de Pile avait fait de ce tableau un siècle plus tôt. Vous voyez d'ailleurs que dans cet ouvrage très atypique ou très neuf qu'était la galerie électorale de Düsseldorf, rédigée par Pigage et sous les soins de Christiane Desmerelles, pardonnez-moi, qui est le premier catalogue illustré d'une galerie où tous les tableaux sont reproduits en petit et gravés avec, comme cartel, au-dessus du cadre, le nom du peintre. Donc, ce appelé communément, il bascule quelques années plus tard, en 1804, dans un des premiers catalogues du Louvre, le catalogue publié par Filiol, rédigé par Lavallée en 1804. Et je vous montre une gravure qui est donc légendée avec un titre. Et dans le catalogue même, il est indiqué que donc planche 3, Adrian van Ostade, cédate, le chansonnier, peint sur bois, description, un chanteur des rues, ou autrement un chansonnier, pour se conformer au titre généralement donné à ce charmant tableau, suivi d'une description. C'est-à-dire que là, le mot titre est appliqué à un tableau, à proprement parler, et le basculement donc s'opère entre le appelé communément au titre généralement donné. Alors, je vais aujourd'hui surtout vous montrer des œuvres du XVIIIe siècle. Le appelé communément pourrait jouer un rôle plus important que le titre à proprement parler. Et surtout, je vais me servir de ce qui finalement a justifié ou conduit à l'apparition des titres, qui est aussi lié à l'exposition publique de l'œuvre d'art. À partir du moment où le tableau sort du lien direct entre le peintre et son acheteur ou son commanditaire, mais est exposé à un public incertain, généralement, il est nécessaire de donner des explications, ce que nous appelons le livret de salon, et qui avait comme titre, en fait, « Explication des tableaux présentés par l'Académie royale de peinture et de sculpture dans le grand salon du Louvre ». Et c'est, en grande partie, ces descriptions qui, aujourd'hui, servent à donner des titres à des tableaux, sinon qu'il faut, naturellement, les réduire parce qu'ils sont beaucoup trop longs, vu que si le titre doit avoir la concision d'une inscription. Et ces expositions publiques conduisent à s'interroger différemment sur la notion de titre. Mais auparavant, avant de passer à ces expositions publiques, j'aimerais revenir aussi sur le fait que l'on insiste, et moi y compris dans le cours d'aujourd'hui, sur le lien entre le titre et le tableau pris sur le mode de relation à signifiant à signifié, c'est-à-dire une relation de type syntagmatique. Je pense qu'il faut aussi, et ça j'y reviendrai beaucoup dans la semaine prochaine et surtout dans 2 semaines, l'analyser sur le mode paradigmatique, c'est-à-dire mettre le titre ne se situe pas seulement par rapport à l'œuvre à laquelle il renvoie, mais aux autres titres. Et ainsi, le tableau de Rubens ayant été surnommé The Watering Place, lorsque Gainsborough expose en 1777 aussi un abreuvoir qui renvoie à l'abreuvoir de Rubens, il faudra très peu de temps pour que le surnom du titre de Rubens devienne le surnom et le titre aujourd'hui général du tableau de Gainsborough. De même, cette relation paradigmatique entre différents titres conduit à des relations entre les tableaux. Et je vous présente ici deux tableaux qui ont été surnommés, dès le XVIIe siècle, le silence. Un tableau du Dominicain qu'on croyait du Carrache et qu'on avait surnommé le silence du Carrache, la Vierge demandant au petit Saint-Jean de ne pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller le Christ. Face au silence du Carrache, Le Brun a peint lui-même aussi un tableau intitulé Le silence. Quand Greuze fait graver ce tableau qui est dans la collection royale anglaise, il lui fait ajouter comme titre, non pas le silence, mais silence avec un point d'exclamation, la mère qui demande aux plus jeunes fils de ne pas réveiller les plus jeunes, et ce tableau devient le silence de Greuze par rapport au silence du Carrache ou au silence de Lebrun. C'est-à-dire que le titre, que les rapports des titres conduisent à élaborer des rapports entre les tableaux et à intégrer, comme il le souhaitait, Greuze dans la dimension de ces différents peintres d'histoire. Donc, ces relations paradigmatiques, on les voit peut-être plus nettement encore dans des tableaux après le titre. Là, donc, je vous le mets ici. En italique et donc pas entre guillemets, le tableau de Cézanne qui évidemment ne peut renvoie par son titre au moins autant que peut-être même que sa composition au tableau paradigmatique de Manet. C'est-à-dire donc les titres ont aussi ce mode de fonctionnement de entre eux et non pas seulement entre le titre et le tableau. Alors aujourd'hui, je ne m'arrêterai que sur la relation entre le titre et le tableau, mais dans les séances à venir, il me faudra naturellement revenir sur ce mode de relation plus complexe entre des titres entre eux et de ce que véhiculent ces rapports des titres les uns par rapport aux autres. Alors je reviens à un texte que j'avais déjà brièvement cité la semaine dernière, qui est le texte de La Fonte Saint-Yenne de 1754, que j'avais cité plutôt pour les lignes précédentes, c'est-à-dire l'émergence de cartels avec des inscriptions dans le cadre de l'Académie et le conseil de La Fonte Saint-Yenne de ne pas les faire mettre sur fond argenté parce que l'argent noircit, mais sur fond doré qui lui ne noircit pas. Et il propose justement, il expose le problème que justement du rapport entre l'exposition publique et du lieu définitif. Lors de l'exposition publique, lors du salon de 1753, expose un tableau que va d'ailleurs critiquer assez largement à La Fonte Saint-Yenne. Tableau qui est alors je suis désolé de ma photo, il n'y a aucune photo en couleur, donc c'est une photo que j'ai prise à Tarascon, dans l'église Sainte-Marthe, un jour d'hiver où la lumière n'était pas absolument excellente. Vous déchiffrez la composition plus que vous ne pouvez la voir. Le tableau donc est exposé au salon avec cette explication dans le livret. Autre tableau en largeur de 15 pieds sur 8, représentant Sainte-Marthe, Marie-Madeleine, Lazare et Saint-Maximin, qui venaient d'être sacrés évêques par Saint-Pierre, lesquels, contraints par les Romains de sortir de Jérusalem, furent tous embarqués de force dans un bâtiment sans voile ni rame, au gré des flots, avec plusieurs autres chrétiens, qui arrivèrent miraculeusement à Marseille. Difficile de garder ceci comme titre, évidemment, difficile de mettre ça sur le cartel d'un tableau. En même temps, ce que La Fonte Saint-Yenne reproche beaucoup de choses à ce tableau, tout en trouvant bien des qualités. La première, c'est que l'épisode est légendaire et qu'un peintre ne devrait absolument pas représenter un épisode légendaire, même s'il lui est commandé par une église et doit faire partie de tout un cycle propre à la vie de Sainte-Marthe. pour la peinture aux yeux de la Fontaine-Saint-Tienne doit être vraie, doit enseigner, et donc on ne peut pas se permettre de représenter cet épisode qui a été mis en doute, non sans quelques vraisemblances d'ailleurs. Pour revenir à son texte, ce qu'explique la Fontaine-Saint-Tienne, le tableau du Survient, par exemple, qui est exposé au dernier salon, qui aurait pu en pénétrer le sujet sans le livre ? Je dois l'avouer, peut-être pas tout le monde, sauf si on le trouve justement dans l'église. Et lorsqu'il sera placé à demeure dans une église, ceux qui en sont instruits aujourd'hui, n'y étant plus dans 30 ou 40 ans, qui pourra l'enseigner aux spectateurs ? Le titre vise à maintenir le lien entre l'explication et le tableau tel qu'il avait été conçu, tel qu'il était supportable, ne posait pas de problème pour un spectateur du salon qui avait son livret, qui regardait le salon comme l'on voit aujourd'hui l'exposition de la collection de Georges Lastic, où tout le monde prend soigneusement au musée de la chasse les feuilles parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'étiquette. Alors que je crois qu'on peut apprécier les tableaux même sans les explications et sans les noms. Il est donc très important, précise la Fontaine-Saint-Tienne, de mettre au bas de leurs tableaux l'explication de leur sujet historique qui ne saurait être trop serrée, trop resserrée, trop concise. Je vais proposer celle-ci comme un exemple pour mettre au bas du tableau dont je viens de parler. Elle ne saurait être plus courte. Saint-Lazare, Saint-Maximin, les Saintes Marthe et Marie de la Madeleine, forcés par les Romains de quitter Jérusalem à être exposés sur un bateau sans voile ni rame. Donc proposant d'inscrire ça sur le cadre du tableau, c'est-à-dire posant la question du titre comme explication durable d'une œuvre. C'est-à-dire renoncer à ce qui avait été très propre au XVIe et même encore au XVIIe siècle, c'est-à-dire au mode énigmatique, au tableau qui doit faire appel à la compréhension, à l'ingéniosité du spectateur, pour justement lui donner durablement, par un titre ou par une inscription encore, un moyen de n'avoir pas à s'interroger trop longuement sur ce que représente l'œuvre à proprement parler. Et ce refus du mode énigmatique va justement tenir une place sur laquelle je vais désormais m'arrêter, c'est-à-dire quel type de relation entre le titre et le tableau peut être élaboré, en quelle mesure le tableau a-t-il besoin d'une phrase, et je voudrais commencer par quelques tableaux qui sont presque les illustrations d'une phrase, l'un n'ayant pas totalement réussi ni à l'Académie ni au Salon, mais qui, depuis quelques années, est censé être redevenu un chef-d'œuvre. L'autre, dont vous avez vu un fragment sur tous les murs de Paris, jusqu'il n'y a pas très longtemps. Je crois que l'exposition Jérôme est terminée. Donc, le problème auquel s'est trouvé confronté Greuze, qui a décidé donc de représenter un tableau qu'il expose au Salon, avec le titre « L'empereur sévère reproche à Caracalla, son fils, d'avoir voulu l'assassiner dans les défilés d'Écosse et lui dit « Si tu veux ma mort, ordonne à Papinien de me la donner avec cette épée. » Illustration d'une phrase. Il s'agit sans titre, le tableau de Greuze qui représente un épisode jamais représenté, et qui ne sera plus beaucoup représenté ensuite d'ailleurs, est absolument incompréhensible. La concision du titre qu'on lui donne actuellement, parce que l'explication est trop longue, Septime Sévère et Caracalla, ne simplifie pas énormément la compréhension du lecteur de ce tableau. C'est-à-dire que le titre ou l'explication tient ici un rôle central. Le tableau n'est que l'illustration même d'une phrase, et sans cette phrase, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que l'on puisse tellement s'en sortir, surtout quand il ne s'agit pas de quoi c'est go, ou d'autres phrases aussi évidentes, ou de Mia Vincita Mor, qui est souvent illustrée depuis le XVIe siècle. De même que le titre le tableau de Jérôme, comme bon nombre des chefs-d'œuvre que l'on a vu ces derniers mois à Paris, fonctionne dans un rapport entre le titre et l'œuvre. Le Polyqué Verso, qui était compréhensible par tout spectateur passant par les collèges au XIXe siècle, le pouce renversé, c'est-à-dire qu'à la fin du combat, le gladiateur s'adressait au public pour savoir s'il devait épargner ou achever son adversaire vaincu. Le public soit levait le pouce et disait « sauvez-le », soit renversait le pouce, « polyqué verso », et donc « achève-le ». Je ne sais pas si tous les spectateurs d'exposition, donc de l'exposition Jérôme, ont pris soin finalement de ne pas regarder uniquement le groupe des gladiateurs qui figurent sur toutes les affiches, mais ce groupe de sénateurs et de chevaliers qui tous témoignent de leur terrible cruauté par le geste du pouce renversé. C'est-à-dire que là aussi, tableau qui fonctionne par rapport au titre. Et l'exposition Jérôme en montrait un certain nombre d'autres, le Ave Caesar Moritorit et Salutant, même la Passion s'était présentée comme, avec le titre Consummatum Est, tout est accompli, expliquant que l'on se permettant de voir les ombres des trois croix au premier plan du tableau. Je ne suis pas sûr que cette conception littéraire de la peinture soit totalement la mienne, mais il ne s'agit pas non plus d'en faire l'économie. Et justement, ce que l'invention ou l'émergence du titre ou des explications a rendu possible, c'est justement, dès le XVIIIe siècle, un renouvellement des sujets. Lorsque l'on prend des recueils comme les Baroque Themen de Pigler, on se rend compte à quel point la peinture entre le XVIe et le milieu du XVIIIe siècle n'a traité qu'un nombre de sujets très restreints, que les peintres s'en tenaient à peu près toujours aux mêmes scènes de l'histoire sainte, aux mêmes scènes de la mythologie, aux mêmes scènes de l'histoire ancienne. Là, aujourd'hui, je ne parlerai que de peinture d'histoire. Pourquoi ? Parce que c'était le seul moyen pour que le spectateur identifie le sujet, c'était la mise en relation avec d'autres tableaux ou d'autres images, des gravures potentiellement, qui représentaient le même type de sujet. C'est-à-dire que l'adjonction d'un titre sous forme d'une explication ou sous forme d'un cartel permet une extension du champ du représentable. Et ces deux exemples le montrent, ma foi, assez bien. Alors, le champ du représentable, c'est aussi un enrichissement de l'allégorie où l'on se demande parfois si le tableau n'est rien d'autre que l'explication ou la mise en image d'une idée. Et c'est le cas de bon nombre des tableaux exécutés pendant la Révolution française. On a beaucoup incité les peintres, je vous renvoie aux travaux de Hollander, aux travaux de Philippe Borde, aux travaux naturellement d'Édouard Pommier, de renouveler les sujets, de peindre des sujets révolutionnaires, de célébrer la nouvelle civilisation qui était en train de naître. Dans certains cas, les peintres ont pris des sujets de type historique, avec une ou deux réussites exceptionnelles et beaucoup de scènes de genre transformées à l'histoire, mais c'est un retour en force de l'allégorie. Ainsi, Prudhon, qui avait remporté un prix au concours de l'an 2, obtient la commande d'un grand tableau qu'il va peindre, qu'il achèvera en 1799. La sagesse et la vérité descendent sur la terre, donc la vérité est nue par essence. Le casque nous indique qu'il s'agit de Minerve, donc de la sagesse, et dissipe les ténèbres qui la couvrent. Là aussi, sans titre, je ne suis pas sûr que je m'en sortirai aisément. Quant à ce tableau que Philippe Bord avait fait acheter pour le musée de Vizille, le musée de la Révolution française à Vizille, qu'il associe, à bon sens de façon vraisemblable, à un tableau qui aurait été exposé au salon de 1793, tableau de Nicolas de Courteil dont on ne sait pas grand-chose autrement, tableau exposé qui représentait la vérité qui amène l'égalité et l'abondance. Alors, ce qui gêne un peu Philippe Bord, et moi aussi d'ailleurs, c'est que l'abondance, on la reconnaît par sa corne, la vérité par son costume traditionnel. En revanche, l'égalité, la représentation du bonnet phrygien et du faisceau ne sont pas tellement les signes de l'égalité qui portent généralement le triangle. Est-ce que le tableau a été remanié? Et en même temps, la description, le livret du salon n'indique pas le dernier personnage que Philippe Bord, je souscris, associe à Diogène parce qu'il tient une lanterne et que Diogène se promenait avec une lanterne en plein jour à la recherche d'un homme, d'un vrai homme, et que désormais Diogène n'a plus besoin de sa lanterne. Il a découvert la vérité présentée par l'égalité et l'abondance. Bon. Je dirais que par certains côtés, l'allégorie de Prudhon est plus claire que celle de Courteil, c'est-à-dire renvoie davantage à des figures que l'on connaît. Dans tous ces cas, le titre donne, pour reprendre toujours cette formule de Marcel Duchamp, la principale couleur du tableau. C'est-à-dire que ces tableaux, ne fonctionnant pas sur le mode énigmatique, mais voulant transmettre un message, on y reviendra, le 19e siècle, le 20e siècle va expliquer que le message que doit transmettre la peinture n'est pas forcément un message extrinsèque à l'art. Ce message passe par, naturellement, l'usage d'explications. Alors, explication pour le révolutionnaire, explication aussi pour ces sujets allégoriques traditionnels. Je vous montre le morceau de réception de Ménageau à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Je dirais que là, pour quelqu'un qui a l'habitude de la peinture des 16e, 17e, 18e siècles, le tableau est sans problème. Le vieillard tenant une faux et un sablier ne peut être que le temps. La femme recouverte d'un bandeau et tenant des livres, c'est l'étude. Bon, donc, le tableau. Sans l'explication du livret de salon, j'aurais probablement pensé un tableau allégorique à l'histoire, l'étude qui essaye de comprendre qui étudie le temps. Non, elle veut l'arrêter, donc allégorie, mais qui un peu justement tournant davantage vers la notion d'immortalité. C'est le tableau de Prudhon, s'il n'avait pas été gravé, serait, et donc avec un titre qu'a repris Sylvain Lavessière lorsqu'il a exposé le tableau à l'exposition Prudhon d'Onde il y a quelques années, je n'ose même plus savoir combien. Le tableau renvoie à un type de poésie alexandrine, mais donc L'amour séduit l'innocence. Alors, effectivement, c'est l'amour, il y a des ailes. Le plaisir les entraîne et le repentir les suit. Discours moral, discours convaincant, évidemment, et tableau qui, finalement, ne fonctionne plus que comme une allégorie, une explication, un rapport indissociable, ici, entre la phrase qui servira de titre à la gravure et qui peut servir de titre indiscutablement au tableau, et la figuration de ce chef-d'œuvre. donc, je dirais que ça, c'est le degré le plus immédiat du rapport du titre au tableau. L'invention du titre va quand même ouvrir, ou de la légende, ou de l'inscription, va, je vous l'ai dit, accroître largement le champ du représentable et permettre une invention poétique. Alors, vous serez surpris du tableau que je vais vous montrer comme démonstration d'une invention poétique. Invention poétique, sous quel aspect ? C'est que c'est un épisode inventé. Ni Tite-Live, ni Corneille ne parlent du serment serment dont nous pouvons éventuellement deviner la formule vaincre ou mourir. Alors là, on reviendra effectivement à Corneille, mais David expose au salon de 1785 ce tableau, Serment des Horaces, entre les mains de leur père. Donc, une fois que l'on a le titre, on peut comprendre l'essentiel de l'invention davidienne. En renvoyant à Corneille, on peut identifier naturellement les figures de Camille et de Sabine. L'on reconnaît dans cet homme le vieil Horace. On peut refabriquer tout un discours associé à la pièce de Corneille, bien plus qu'à Tite-Live, associé, a-t-on dit, aussi à la pantomime de Nevers, mais sans justement ce type de discours, il est clair que David aurait été largement critiqué sans un titre, c'est-à-dire qu'on lui aurait reproché son inexactitude historique avec des pédants comme à la façon de la Fonte Saint-Yenne, qui ne supporte pas que le peintre invente l'histoire, crée l'histoire, au lieu de la représenter. On a d'ailleurs reproché à David d'avoir utilisé des arcades, alors que dans cette période primitive, seule une architrave aurait dû réunir les colonnes de ce tableau. Donc, le titre écrit, peut-être, devient à ce moment-là vraiment un outil propre à la peinture, un moyen non pas seulement de colorer, mais d'inventer. Et je vais vous en montrer dans un instant un exemple plus frappant encore. Mais avant de passer à cet exemple plus frappant encore, je voudrais aussi m'arrêter sur la façon dont David lui-même parle de ses tableaux dans sa correspondance, où les tableaux ayant atteint suffisamment de renom, il les appelle par une abréviation. Les Horaces, les Sabines, le Sacre, il propose à Napoléon, qui voulait réunir ses tableaux dans une salle, d'appeler cette salle la salle du Sacre. Et Napoléon dit, on l'appellera la salle de David. Finalement, deux de ces tableaux seulement seront peints. C'est-à-dire qu'on écarte même, comme nous le faisons encore aujourd'hui, de même que nous parlons... que lorsque l'on dit dans la recherche on trouve personne ne comprend pas que ce n'est pas la recherche du temps perdu. C'est-à-dire cette abréviation du titre comme surnom est un fonctionnement très propre à cette modification du rapport des œuvres. Et on n'utilisera pas le terme les Sabines pour le même sujet peint dans l'ancienne galerie de la Vrillière par Guerchin, si j'ai bonne mémoire. Mais je voudrais m'arrêter sur un tableau exposé à la Royal Academy en 1781 avec comme titre « The Nightmare ». Titre, donc naturellement, il était au Louvre, il est encore au Louvre à l'exposition d'Antiquité rêvée, et pose beaucoup de questions, même dans ses relations entre le titre et le tableau. Nightmare peut renvoyer aussi bien au cauchemar qu'à l'incube, ou au succube, je ne sais plus, qui se trouve autour de la figure. Le titre, ici, tient une place centrale, c'est-à-dire qu'il permet de ne pas aller chercher dans la littérature un sujet au tableau. Et quand je parlais de sujet inventé pour David, naturellement, chez Fuseli, le sujet inventé est infiniment plus riche, du moins touchant davantage une sensibilité actuelle, et pose la question justement de la lecture de la figure du cheval. De cette figure de femme a son sens par justement uniquement cette indication du cauchemar. Et c'est aussi pour ça, là, je vais vous montrer pendant le reste de cette séance essentiellement des tableaux anglais. Pourtant que Fuseli soit anglais, si j'étais à Lausanne, je ne pourrais pas me permettre de le dire, mais je pense que pour ces tableaux peints à Londres, on peut lui garder l'orthographe anglaise de Fuseli plutôt que le U umlaut et deux L que je lui garde évidemment à Lausanne, et qui pose la question justement des traductions de titres. On le verra la semaine prochaine. Quand un titre qui fonctionne ainsi dans un rapport direct avec une œuvre est traduit, dans bien des cas, la connotation du titre, on y reviendra pour Magritte la semaine prochaine, disparaît quand le titre ne renvoie plus à la même littérature, au même mot. C'est-à-dire qu'on se trouve face à de l'intraduisible par bien des aspects. Donc, je voudrais commencer par un dessin qui pose... je ne vous ai pas mis de titre et je ne vous ai pas mis de sujet. Ce dessin, j'y reviendrai évidemment ensuite. Je dois avouer que je l'aurais vu ainsi, sans une tradition, sans d'autres mises en relation, que j'aurais été absolument incapable de savoir ce qu'il représentait. Ce dessin, je vais y revenir grâce à d'autres pistes, justement celles de titres, qui permettent aujourd'hui de savoir que nous nous trouvons sur les remparts d'Elseneur, dans la deuxième scène d'une pièce de théâtre assez célèbre. Et je reviendrai à ce dessin, mais ce dessin est préparatoire ou anticipe autour d'un épisode que je pense vous connaissez tous, absolument passionnant, qui est la proposition par John Boydell, alderman de Londres, de commander à tous les peintres vivants anglais des tableaux pour une Shakespeare Gallery, tableaux destinés à être gravés, aussi bien pour illustrer une édition, une folio splendide de Shakespeare, que gravé individuellement, et ces tableaux sont exposés dans une galerie qu'il se fait construire à Pall Mall, galerie pour laquelle il va publier à diverses reprises des catalogues, ou plutôt les catalogues des tableaux dans la Shakespeare Gallery à Pall Mall. Je vous montre ici Je titre, et surtout ce sur quoi je vais m'arrêter davantage, l'explicitation, l'avertissement de la première page qui pose de nouveau cette question de jusqu'où doit-on aller dans le titre et l'explication. Boydell précise bien que le nom du peintre, ainsi que l'acte et la scène de chaque pièce, est inscrit sur le cadre des tableaux. C'est-à-dire que là, on est toujours dans ce lien direct entre l'œuvre et le discours, mais on ne peut pas non plus mettre trop d'inscriptions sur le cadre. Donc, il suffit d'indiquer Hamlet, acte 1, scène 2, j'y reviendrai dans un instant. Un catalogue semblait donc superflu. L'explication écrite est provisoire par rapport à l'explication définitive qui, elle, fonctionne avec le cartel. Mais comme il a été suggéré qu'il serait agréable aux souscripteurs, ceux qui devaient souscrire pour la série de gravures, d'avoir suffisamment une part suffisante de textes imprimés pour chaque pièce, pour chaque scène, pour élucider le sujet du tableau, et le moment précis choisi par le peintre, indiqué en italique, vous voyez que nous glissons justement dans des choses qui nous sont plus familières, donc ce souhait a été exaucé, et on a essayé de le faire en même temps de la façon la moins dispendieuse possible, c'est-à-dire que chacun puisse acheter ce catalogue pour une somme, ou cette liste, pour une somme très raisonnable. Vu qu'il fallait payer pour aller voir la Shakespeare Gallery, en revanche, on distribuait une feuille, je dirais, comme aujourd'hui au musée de la chasse, pour l'exposition des tableaux de Georges de Lastic. Donc, ainsi, le tableau dont je vous montrais, disparu malheureusement, mais je vous en montrerai une gravure pour laquelle je vous ai montré un dessin préparatoire, nous est ainsi présenté dans le catalogue de Boydell, où l'on a donc le numéro 34, le titre de la pièce, acte 1, scène 4, précisant que se tient sur la terrasse devant le palais d'Elseneur, que Hamlet, Horatio, Marcellus et le fantôme interviennent dans cette scène. C'est-à-dire, on a donc l'essentiel, on a une bonne partie des vers de Shakespeare, et ce n'est qu'à la fin que se trouvent les trois vers qui sont censés être représentés par Fuseli. Je vous montre donc une gravure d'après le tableau disparu, peut-être plus facile à reconnaître que le dessin, parce que les figures ne sont pas nues, mais nous n'avons qu'une seule figure qui retient Hamlet. Donc la gravure, malheureusement, dans la plupart des ouvrages, vu que la question du titre ne passionne pas forcément tout le monde, quand on nous reproduit des gravures, on les reproduit sans leur légende. Donc j'ai dû l'ajouter à la main, la légende de la gravure dont je n'ai fait que des photos coupées juste à la hauteur de l'image, que j'ai raccourci. Et ainsi, on peut revenir aux vers illustrés. Vous me pardonnerez de vous les traduire, j'aime mieux ne pas écorcher Shakespeare, qui est un auteur que j'aime trop, pour le prononcer avec un accent qui est le mien et sans le rythmer comme sa poésie l'exige. C'est le moment où justement le fantôme, le spectre, fait signe à Hamlet de le suivre, que Horatio et Marcellus essayent de le retenir, de l'empêcher de le suivre, et donc ils le retiennent même physiquement, peut-être pas avec une gestuelle comparable à celle que nous avons ici, et Hamlet leur dit que répond, mon destin hurle et rend chaque veine de mon corps aussi dure que les muscles du lion de Némée. Il m'appelle de nouveau, le fantôme. Laissez-moi, messieurs, par le ciel, je ferai un fantôme de celui d'entre vous qui me retient. Arrière, vous dis-je, et s'adressant au fantôme, je te suis. C'est-à-dire que le choix de représentation de le choix de Fuseli, peut-être même antérieur, parce qu'on a beaucoup de dessins de Fuseli sur des sujets qu'il traitera ultérieurement, le choix de Fuseli renvoie à un moment très particulier de la scène, qui n'est pas celui qui nous est à tous le plus familier, le moment où... et il s'agit de représenter la tension entre, d'un côté, donc, Horatio et Marcellus qui essayent de retenir Hamlet, et Hamlet qui brûle de suivre le fantôme de son père. Et ceci est, par certains côtés, beaucoup plus... Je suis désolé, l'image est un peu sombre, beaucoup plus visible dans le dessin même, par la représentation de muscles bandés, que cette espèce de tension qui est centrale dans la pensée ici de Fuseli. Et là, sans les indications bon, de l'acte et de la scène, évidemment, sur le cadre, sans éventuellement sans l'indication précise des vers dans la légende, je ne suis pas sûr que l'on s'en sortirait. Et je vous dis, je crois que ce dessin... sans découvrir, trouver ainsi serait incompréhensible sans l'adjonction d'un titre, c'est-à-dire d'un rapport ici au lisible. Donc, ce que je voudrais désormais passer brièvement aussi, ne serait-ce que le temps avance, c'est un autre projet qui, lui, n'est pas une commande de Fuseli, qui est une Milton Gallery, pour laquelle une quarantaine de tableaux ont été peints. La Milton Gallery a été ouverte pour la première fois en 1799, avec un succès assez relatif. Il repeint quelques tableaux, modifie, la réouvre en 1800, et finalement, il n'obtient ni les ressources suffisantes pour la location du lieu, ni les commandes suffisantes pour une série de gravures. Alors, là aussi, la question qui se pose, probablement pas pour un Anglais de la fin du XVIIIe siècle, évidemment pour un Français du XXIe siècle qui n'a pas toujours le paradis perdu en tête, et ses premières scènes, c'est justement ce lien, ce besoin nécessaire de titres, d'indications qui figuraient dans la galerie de Milton. C'est-à-dire que je vous montre deux de ces tableaux qui se trouvent l'un et l'autre à Zurich au Kunsthaus, qui pour le premier concerne le premier chant du Paradis perdu, l'autre le second. C'est-à-dire, j'avais apporté le texte, mais je ne suis pas sûr que je vais vous en faire la lecture ni en français ni en anglais, représentant donc Satan voulant se venger depuis la chute, et essayant de réunir les démons et s'adressant à celui qui était le second en puissance après lui, Belzébuth, je ne sais pas si le terme nager convient, qui baignait non plus dans une mer de feu. Je ne sais pas si on se baigne dans une mer de feu, c'est un peu difficile. Et donc s'adresse à lui comme le premier qu'il veut utiliser dans sa rencontre et dans sa vaste dans le vaste combat qu'il veut mener et gagner, c'est-à-dire arriver à perdre les nouvelles créatures que Dieu a mises sur terre. L'autre tableau nous représente ce qui est longuement dépeint, l'entrée des enfers, où Satan va vouloir descendre et va se trouver confronté ou se rencontrer la figure de ce qu'on traduit en français par le péché. Le mot sin a une dimension plus large. Puis, vu qu'en français, le péché est au masculin, nous l'imaginerions plutôt comme une figure masculine. Or, c'est une figure féminine, selon les descriptions de Milton. De même que le péché a engendré la mort, qui est un avorton qui a peuplé ensuite la terre de monstres par un lien incestueux avec sa mère. Les monstres sont les fruits de l'inceste entre le péché et la mort. Et donc, vous avez derrière le sin, la figure de la mort. Dans les deux cas, et de toute façon dans l'ensemble du cycle de la Milton Gallery, Satan est une des figures les plus belles, plus belles d'ailleurs que les archanges, que Ituriel ou Gabriel, que représente aussi Fuseli dans d'autres tableaux. Fuseli fait de Satan la figure principale du paradis perdu, des représentations qu'il donne du paradis perdu. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de dessins de Fuseli antérieurs même au projet de la Milton Gallery. On a des listes des œuvres qui ont pu exister, un certain nombre ont disparu, certaines sont en ruine. Là aussi, le titre ne se contente pas de venir donner un sens au tableau. Et je pense que c'est peut-être une différence par rapport à ce que je vous ai montré en ce qui concernait David, et a fortiori pour les allégories un peu pompeuses que je vous avais montrées tout à l'heure, mais c'est une démarche qui est celle de Fuseli et qui est celle qu'on retrouve tout autant chez Delacroix, c'est-à-dire le point de départ de l'imagination picturale est fabriqué par la poésie. Il s'agit donc d'arriver à lier, à mettre en image et non pas à illustrer, ce qui est tout à fait différent. Et donc le titre ici est indispensable. Je suis sûr que chacun d'entre vous aurait reconnu qu'on avait Satan, la mort et le péché dans le tableau de droite. Moi, peut-être moins nettement si je n'avais pas eu l'occasion de travailler un petit peu sur cette Milton Gallery. C'est-à-dire que là, on se trouve dans une forme de relation beaucoup plus complexe. Et pour revenir à cette notion de couleur invisible, propre, cher à Duchamp, et sur lequel je reviendrai beaucoup la semaine prochaine, d'une certaine façon, les tableaux de Fuseli se prennent comme couleur invisible la poésie de Milton ou de Shakespeare, ou sa propre imagination pour le cauchemar, c'est-à-dire que l'on a une relation entre le visuel et l'écrit, plutôt, le titre est du ressort de l'écrit, qui est absolument indissociable et qui, je vous l'ai dit, accroît très largement le champ du représentable, du moins dans le domaine auquel j'ai consacré cette séance, mais qui n'est naturellement et heureusement pas tout le domaine de tout le champ de la peinture, c'est-à-dire la peinture à sujet historique. Ce que l'on appelle la peinture d'histoire, c'est celle qui est comparée à la poésie, selon les mystiques éternels d'Horace, l'ut pictura poesis, cette peinture qui fonctionne de façon, je dirais presque en relation avec la narration, avec cet aspect de transparence entre le texte et l'image. Mais, et on y revient, j'y reviendrai naturellement la semaine prochaine beaucoup plus, là je dirais que c'est presque à titre d'introduction à la semaine prochaine autant que de conclusion ou de remise en perspective de ce que j'ai évoqué pendant cette séance, c'est que l'invention du titre ne simplifie pas beaucoup la vie d'un certain nombre d'artistes dans d'autres genres, et peut-être moins encore celle des historiens d'art qui veulent distinguer dans ces relations donc paradigmatiques entre différents types de tableaux. Ainsi, le tableau de Chardin qui se trouve à la Frick Collection, qui avait été commandé par le roi, qui appartenait au marquis de Marigny, est exposé avec une explication d'âme variant ses amusements au salon, et gravé avec un de titres, mais c'est le titre de la gravure, La Serinette. Donc aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de faire une notice sur ce tableau, on met d'âme variant ses amusements, dit aussi La Serinette. En quelle mesure peut-on parler ? D'un côté, on a le titre de la gravure, de l'autre côté, une description. Et la serinette, c'est-à-dire la dame qui, par cette boîte à musique, apprend à son serin à chanter juste. Mais variant ses amusements, donc nous voyons qu'elle fait aussi de la broderie, de la tapisserie, qu'elle occupe. Mais il y a un tableau dans le tableau, plutôt une gravure dans le tableau. Gravure qui est longuement, d'après une composition de Charles-Antoine Coypel, tableau qui a été longtemps au Chrysler Museum mais qui a été vendu dans les années 80 et qui se trouve dans une collection particulière. Je vous montre ici en production d'une gravure, elle aussi sans sa légende. Je voulais donc là aussi ajouter à la main Tali, la muse de la comédie, chassée par la peinture. Ce tableau par lequel Charles-Antoine Coypel aurait annoncé qu'il renonçait désormais à écrire des pièces de théâtre et qu'il ne serait plus désormais qu'un peintre, je ne dirais pas un grand peintre, mais un vrai peintre, et puis le premier peintre du roi ultérieurement. Généralement, on considère que Chardin a mis cette gravure, a représenté cette gravure dans le tableau de la Serinette ou de la Dame variant ses amusements, par hommage envers Charles-Antoine Coypel, qui lui aurait fait obtenir la commande de ce tableau. C'est possible, j'aurais tendance à vous en proposer une lecture allégorique qui servirait en même temps d'introduction à la séance précédente. C'est ce qui peut préoccuper ici Chardin, c'est de faire sortir la littérature de la peinture. C'est-à-dire que, justement, les tableaux de Chardin sont du ressort du visible, de ce qui est destiné à l'œil et non pas destiné aux longues analyses pour lesquelles les titres sont indispensables. Et j'aurais tendance à me demander, à voir peut-être dans cette mise en abîme de la gravure, une volonté de sortir de cette peinture qui a besoin d'explications, qui a besoin de discours, et donc créer une peinture qui pose des problèmes beaucoup plus gênants aux historiens d'art que peut-on dire d'une peinture qui n'est pas narrative. Et comment, quel titre, et ça on y reviendra la semaine prochaine, peut-on ajouter sur une peinture qui n'est pas narrative ? Je vous remercie.